Bonsoir, merci de nous avoir rejoints pour ce café littéraire consacré aux sociétés secrètes. Alors là, évidemment, nous étions dans une époque particulière. Je pense que Philippe Cavalier a particulièrement apprécié, puisqu'on sera vraiment pratiquement dans la même époque avec vous dans quelques instants. Mais on verra effectivement qu'il y a des évolutions en fonction des époques et des âges sur ces sociétés secrètes. Et on va essayer de voir un peu si nos auteurs sont de grands paranoïaques. Ou si pire, ils ont raison. Lionel, on va commencer avec toi. Lionel Davoust, coup de cœur des Imaginales cette année pour la trilogie Léviathan, dont deux des volumes sont déjà sortis et disponibles. Lionel, tout justement dans Léviathan tourne autour, j'allais dire d'une, mais c'est même presque de deux mystérieuses sociétés secrètes, non ?
Référence aux voix, je suppose.
Par exemple.
Alors, le fond historique et mythologique sur lequel je me suis appuyé pour cette trilogie, qui est du thriller initiatique, mais avec un peu des éléments fantastiques qui montent en puissance au fur et à mesure de la série, c'est pas vraiment deux sociétés secrètes, c'est plutôt deux façons de voir le monde, et c'est des façons de voir le monde qui apparaissent, qui se trouvent dans l'Inde ancienne, mais qui apparaissent dans le corpus de l'Inde, qui sont redécouverts par l'Occident, vers la fin du 19e siècle, deuxième moitié environ, et qui sont là simplement une façon de voir les différents systèmes d'initiation à travers le monde, qui sont la voie de la main gauche et la voie de la main droite. Et c'est plutôt des points de vue, des points de vue philosophiques que vraiment des organisations. La voie de la main droite, c'est tout simplement postule qu'il y a un ordre dans le monde gouverné par des lois, et le destin de l'homme est de trouver sa place là-dedans, c'est tant souvent une nature divine. La voie de la main gauche, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les anarchistes. C'est plutôt les gens qui considèrent que l'homme a le pouvoir d'être son propre maître et que c'est ce qu'il doit rechercher en permanence.
Mais dans le roman, la voie de la main gauche, la voie de la main droite, c'est un peu particulier parce que déjà elle est plus elliptique et puis elle est finalement plus ancrée dans la réalité, en tout cas dans ce qu'on connaît. Mais par contre, la voie de la main gauche, elle, on a l'impression qu'effectivement elle est plus structurée, pour le coup, comme une société secrète, de ce que tu nous montres en tout cas.
Alors effectivement, dans la série, on voit une société secrète qui suit la voie de la main gauche qui s'appelle le comité et qui est constitué de gens qui vivent dans le secret, puisque la voie de la main droite domine la planète et que c'est grosso modo en général le système communément admis par les gens, et qui sont des gens, cependant, la voie de la main gauche et ce comité se situent dans les hautes sphères du pouvoir, de la finance, et ont leur propre fin, leur propre projet, sans dévoiler l'intrigue dont qu'on trouve à travers les Léviathan. Le thème de ces secrètes m'intéresse parce que par nature, alors pour dire un mot, par exemple, j'ai entendu dire par exemple que les Léviathans étaient des thrillers ésotériques. Le problème, c'est que le mot ésotérisme est devenu un mot extrêmement galvaudé et un peu mal compris, qui est que, notamment à travers le roman de Dan Brown, même si j'ai beaucoup de respect pour sa technique de narration et sa maîtrise du suspense, mais souvent l'ésotérisme c'est devenu synonyme effectivement de ces secrets de francs-maçons, de gens qui ont des signes secrets, etc. L'ésotérisme c'est pas ça du tout.
Et de choses très fantasmées.
L'ésotérisme à la base c'est pas ça, ça s'oppose à un autre terme qui s'appelle l'exotérisme. Et en fait ça remonte à la Grèce antique, c'est-à-dire l'ésotérisme c'était l'enseignement qui était à volet fermé, c'est-à-dire par opposition à l'enseignement qui était exotérique, qui était celui auquel tout le monde pouvait accéder. Donc l'ésotérisme, c'est tout simplement ce qui est caché, ce qu'on ne sait pas. Et c'est ce qui est éventuellement révélé à l'initié. Alors il y a mille raisons, ça peut éventuellement être parce que c'est un peu compliqué, la mécanique quantique peut être un enseignement ésotérique. Mais voilà, donc tout simplement l'ésotérisme, c'est ça. Et dans les sociétés secrètes, au fil de l'histoire, ça a été donc ce sont des gens qui partagent des secrets entre eux, mais ça ne peut pas forcément être des secrets dangereux, des trucs compliqués, simplement ce qui est accessible. La connaissance est accessible aux initiés. Et par exemple, dans les anciennes sociétés secrètes en Occident, les secrets d'artisanat, par exemple, dans les confréries, étaient des secrets, donc des secrets, c'est un anachronisme de dire ça, mais des secrets d'industrie, des secrets de savoir-faire. Et ça peut être considéré comme des secrets ésotériques, mais il y a beaucoup de sociétés secrètes qui ont commencé comme ça. Et à la base, ce sont donc des gens, des initiés de quelque chose, pas forcément de quelque chose de magique ou de fantasmé, ou de mécanique quantique, qui se retrouvent entre eux. C'est des gens qui partagent quelque chose en commun. Mais si vous êtes fan du néo-métal bulgare de l'année 1972, c'est aussi un savoir ésotérique et vous allez chercher des gens qui partagent vos goûts. Donc à la base, c'est ça. Et moi, le thème m'intéressait parce que ce sont des vecteurs de culture aussi. et notamment on le voit beaucoup à travers l'Europe occidentale, où ces gens communiquaient des savoirs entre eux, et ça a été un énorme vecteur de propagation de la culture et du savoir et de structuration sociale au fil des années.
Victor Dixen, votre vision à vous de la société secrète, je parle pas, enfin évidemment, de ce que vous développez dans le roman, on est bien d'accord, mais voilà, est-ce que vous avez une vision de votre société secrète reflète-t-elle quelque chose de différent par rapport à ce que vient de dire?
Voilà, effectivement, je vais quand même m'appuyer sur ce que je décris dans Jack's Park. On a parlé de fantasmes aussi, donc les sociétés secrètes réelles ou fantasmées. Moi, je pense qu'on a tous un fantasme d'inconnu. C'est-à-dire qu'on a besoin, en tant qu'être humain, d'avoir une part d'inconnu, une part d'inexploré, qui pendant longtemps était partout autour de nous. Hein. Au Moyen-Âge, on s'éloignait guère de son clocher, et tout le reste était l'inconnu, donc qui suscitait l'imagination. Aujourd'hui, on est dans un monde qui paraît entièrement exploré. La surface de la Terre entière a été cartographiée, il suffit d'aller sur Google Earth pour s'en rendre compte. Où est-ce qu'on va chercher l'inconnu? Où est-ce qu'on va chercher cette part de fantasme qui nous est tout simplement vitale?
C'est le nouveau croque-mitaine, la société secrète?
Alors pour moi, oui, j'écris en priorité effectivement pour la jeunesse. Moi, j'ai l'impression que ces sociétés secrètes, ces êtres, ces fantasmes qui nous sont nécessaires se terrent peut-être dans les profondeurs de la Terre. C'est les forces cthoniennes, les forces telluriques que j'essaye d'aller chercher avec Jack Spark, donc cet adolescent insomniaque qui est envoyé dans un camp de redressement pour adolescents difficiles. Et il va se rendre compte que ce camp est en fait géré par des créatures qui ne sortent que la nuit, qui vivent dans des cavernes et qui constituent effectivement à leur manière une société secrète.
Évidemment, on va y revenir dans quelques instants. On va quitter le présent, le futur proche, ou en tout cas, voilà, des mondes plus contemporains pour aller voir un peu ce qui se passait aussi dans le passé, finalement. Alors, attendez, parce que je vais sortir mes propres archives. Hop, voilà. Avec d'abord Le Marquis d'Orgères de Philippe Cavalier. Là aussi, finalement, votre vision un peu des sociétés secrètes, ou en tout cas, comment elles s'intègrent dans le contexte historique, puisqu'on est au XVIIIe siècle. Est-ce que, par rapport à ce que vous venez d'entendre, il y a des différences, il y a des choses autres?
Il n'y a pas vraiment de différence. Ce qui est très intéressant, ce qui a été très bien souligné par les deux premiers intervenants, c'est que en fait, la société secrète est un fantasme permanent, mais aussi une réalité et une catégorie de l'imaginaire, mais aussi une catégorie sociale permanente. On retrouve des sociétés secrètes, les mystères antiques sont le fait d'églises secrètes et non de sociétés secrètes. On les retrouve évidemment donc dans le monde grec, on les retrouve dans le monde romain. Plus tard, le christianisme des catacombes peut être considéré à l'époque comme une société secrète, bien entendu, tout au long du Moyen-Âge. Et puis, à l'époque moderne, au XVIIe siècle, au XVIIIe, évidemment, avec en Europe occidentale, du moins, l'efflorescence de la franc-maçonnerie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis, c'est une thématique qui se poursuit de nos jours, qui est très vivace et qui, je crois, répond effectivement à un besoin psychologique. On aimerait en être, beaucoup de gens sont attirés par le mystère, par le secret. C'est une des voies qui pousse encore aujourd'hui, et une des raisons majeures de l'adhésion à certaines sociétés secrètes, à ce besoin d'interdit, de besoin de supériorité, qui fait que le thème de la société secrète est un thème permanent dans l'imaginaire humain.
On y reviendra sur un peu plus en détail, mais ce qui est intéressant dans le Marquis d'Orgères, c'est la ramification, le maillage qui existe, alors que finalement aujourd'hui on aurait tendance à penser effectivement, peut-être comme dans le cas de Lionel et Victor Dixen, que l'extension peut se faire infiniment plus facilement parce qu'on a tout un système médiatique, électronique, informatique. Là on a un maillage à une époque où finalement qui est quand même assez impressionnant. Hein.
Alors bon, le cas du Marquis d'Orgères est un tout petit peu particulier puisque c'est un roman de KPVP. Ce n'est pas un roman hystérique, mais ce serait plutôt un roman hystérique, si je peux me permettre ce jeu de mots un peu facile. Et donc les sociétés.
Il est un peu énervé, on va dire.
Voilà, avec un personnage survolté. Et donc les sociétés secrètes qui sont décrites dans cet ouvrage prennent appui sur des réalités historiques, mais sont volontairement un petit peu modifiées. Et j'ai un peu forcé le trait. Alors, c'est vrai que la grande société, historiquement parlant, la grande société secrète du XVIIIe siècle, c'est la maçonnerie. La maçonnerie, on la trouve un peu dans les aventures du Marquis. Elle a son importance non seulement dans la préparation, et ça c'est un fait avéré historique, dans la préparation de la Révolution française, mais aussi dans l'émergence des États-Unis. On sait que les grands pères fondateurs des États-Unis étaient tous initié à la franc-maçonnerie, j'utilise ce terrain-là, qui est un terreau extrêmement fertile, pour tisser des aventures, mais sur ce volume précis, je confesse avoir un peu forcé le trait.
Et on va finir ce tour de table, et j'ai volontairement gardé Nicolas par la fin, parce que je veux dire que votre société secrète, c'est quand même la plus étrange de toutes celles qu'on vient d'évoquer, je pense. J'ai du mal à en parler, parce que c'est quand même un livre à suspense, le Marquis et la Sibylle. C'est compliqué de parler de cette société secrète sans trop en révéler sur le roman.
Ben oui, c'est le principe. Alors d'abord, il faut dire une chose, c'est que les sociétés secrètes, c'est un truc formidable pour les écrivains. C'est merveilleux, ça permet de créer du suspense, ça permet de superposer plusieurs réalités dans le roman. C'est vraiment un truc formidable. Et moi, j'ai commencé à goûter à ça avec le premier roman de la trilogie qui s'appelle La Sibylle de la Révolution, où je voulais une histoire de société secrète. Et j'ai lu en fait un des bouquins fondateurs du mythe des sociétés secrètes, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme d'un certain Augustin Barruel. Vous en avez peut-être jamais entendu parler, sans doute, ça ne vous dit rien. Ce gars, c'était un prêtre émigré pendant la Révolution, qui est revenu et qui a fait une thèse, ce bouquin dont je vous parle. Lui, sa théorie, c'était que le peuple français, fondamentalement bon, n'a pas pu tuer son roi, c'est pas possible. Il a fallu qu'il y soit incité. Alors évidemment, il a tout de suite trouvé le bouc émissaire, c'était les francs-maçons. Mais même les francs-maçons, après tout, étaient français. Donc il a fallu que ça vienne de l'étranger. Et il a trouvé un obscur groupuscule plus ou moins maçonnique allemand qui s'appelait les Illuminés de Bavière ou les Illuminati. Et il a fait toute sa thèse là-dessus. Mais le pire, et ça m'a un peu fait changer ma vision des choses après, c'est que vous avez toujours des gens aujourd'hui qui sont persuadés que le monde est, nous ne sommes que les marionnettes dont les Illuminati tirent les ficelles. Et en fait, cette histoire de société secrète se révèle à bien des égards être très dangereuse. Ça devient ce qu'on appelle le complotisme. Or, le complotisme, on en a des exemples particulièrement sanglants. Après tout, l'antisémitisme de Adolf Hitler et des autres, c'était jamais qu'une forme de complotisme alimenté par des documents bidons comme le protocole des sages de Sion, etc.
Évidemment, on évoquait Madame Brown tout à l'heure avec Lionel, on tourne toujours autour de ça. Mais quand même un petit mot sur la Sibylle et le Marquis, parce que ça, par contre, on peut le dire sans trop en révéler. Votre société secrète, elle a pignon sur rue à travers trois femmes à qui on donnerait le bon Dieu sans confession.
Alors là, cette société que je crée, qui est totalement imaginaire pour le coup, personne n'a jamais théorisé là-dessus. C'est une sorte de légende urbaine.
C'est un code d'élection, du coup.
Qui a été créé par qui? Qui a été créé par ma femme.
Ah bah ça m'étonne. Jour, bizarrement, ça m'étonne pas, oui.
Un jour, elle rentre à la maison et dit « Nicolas, j'ai imaginé un truc formidable, tu devrais en faire un roman. » Elle m'avait rempli tout un carnet sur cette société secrète en décrivant ses statuts, en décrivant son histoire, la manière... Et c'était assez extraordinaire et j'ai utilisé complètement son petit carnet.
Alors évidemment, on va avoir du mal pour pas vous révéler quand même ce qui se passe à l'intérieur du livre, mais on peut le dire, l'instrument de cette société secrète, c'est le Marquis de Sade.
Voilà, c'est là-bas, c'est l'inspiration, c'est une sorte de...
Alors quand vous dites l'inspiration,
messie inversée, oui, voilà, c'est lui qui a apporté la vérité, mais la vérité qu'il faut combattre, enfin bon... les meurtres qui sont commis s'inspirent de certains de ses écrits. Voilà, mais c'est pour le coup, c'est une invention de toute pièce.
Ça peut vous rassurer. Lionel, pareil, nouveau tour de table. Est-ce que l'objectif de la société secrète, c'est forcément le pouvoir?
Ça dépend de la société. Sachant que, quand même, fréquemment, les humains ont tendance à se rassembler en groupe, en particulier les groupes qui savent des choses que les autres ne savent pas ou que les autres ne veulent pas qu'ils sachent, en général, la tendance, ça consiste à effectivement étendre son emprise. Moi, ce dont j'avais envie dans les Léviathans, c'est légèrement différent, parce qu'en tout cas, un des objectifs avoués du comité, donc qui est de la voix de la main gauche, par rapport à la voix de la main droite, et dans le monde, la voix de la main droite est fréquemment représentée par l'Inquisition, des chasseurs de sorcières, et que les mages de la main gauche sont effectivement des mages avec certains pouvoirs qui dépassent certaines normes humaines, ces gens-là se présentent comme étant surtout des gens qui cherchent à se protéger et à pouvoir exister.
Et... quand je dis pouvoir, c'est peut-être aussi imposer une échelle de valeur, parce qu'on... c'est peut-être aussi ce qu'on va voir avec les uns et les autres, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le mot pouvoir finalement.
Alors c'est assez rigolo parce que la voix de la main gauche se dans les livres et quand on se documente un peu sur la question, parce que c'est quand même quelque chose dont on trouve de la doc sur ces choses-là, tout simplement c'est le tenant de l'antinomisme, donc c'est ceux qui remettent au moins en question et qui souvent s'opposent à la norme. Et ça m'amusait assez justement de voir comment est-ce que des groupuscules qui se prétendent justement totalement libertaires, qui prétendent que le développement de l'individu hors de toute influence est le but final de l'être humain, comment est-ce que ces gens-là finalement finissent par retomber malgré tout dans les travers de l'humanité, c'est-à-dire instaurer des hiérarchies. Et comme de toute façon ils sont tous libres les uns les autres, bah, ils sont également libres d'oppresser ceux qui sont en dessous d'eux.
Et de se taper dessus entre eux.
Et de se taper dessus entre eux, tout à fait, mais en même temps, s'il n'y a pas de moment des gens qui se tapent dessus, ça ne fait pas forcément un thriller. Donc,
oui, mais ils peuvent taper sur les autres, pas forcément.
Ils peuvent taper sur les autres. Ça ne les empêche pas de taper sur les autres aussi, effectivement, puisqu'il y a aussi l'opposition entre la voix de la main droite et la voix de la main gauche, tisse dans les romans ce que j'appelle le jeu supérieur du pouvoir et de la connaissance, où en gros, principalement, les gens luttent pour exister par eux-mêmes le plus possible sans ascendance extérieure, et évidemment, dans le cas des mages de la main gauche, sans ces vilains chasseurs de sorcières qui essaient de leur taper sur la figure et les faire rentrer dans le rang. Mais il n'y a pas de point de vue bien ou mal, hein. C'est vraiment une question de...
Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine, hein. C'est pas aussi simple que ça. On pourrait imaginer effectivement que la main droite, ça soit le mal, la main gauche, le bien. En fait, c'est pas du tout ça.
Non, c'est des questions qui sont vraiment purement des points de vue qui sont philosophiques et un peu évidemment métaphysiques, puisqu'on va un peu taper dans les questions de l'ordre du monde. Mais ce sont des idées, et la façon dont ces idées sont prises, il y a des gens qui sont sympathiques et d'autres qui le sont beaucoup moins.
Parce que quand je parle de pouvoir, c'est aussi des questions d'ambition personnelle par moment.
Oui, bah, la voix de la main gauche, c'est un peu dit, c'est dit en toutes lettres dans la nuit, en tout cas, les mages de la main gauche dans l'univers de Léviathan ont pour autre but que devenir leur propre dieu. Bon, c'est un vaste programme quand même. Effectivement, ils cherchent à s'élever. Mais alors que la main droite a plus des tenants moraux à considérer qu'il faut rentrer dans l'ordre du monde et la parole supérieure, quelle qu'elle soit, et de quelque dieu qu'elle vienne, est le bien et le reste est mal, les mages de la main gauche n'ont pas ces repères moraux-là, et ça devient une création des uns et des autres. Donc moi, je tenais vraiment à ce que ces deux voies qui donc existent dans les traditions initiatiques ne soient absolument pas désignées comme étant l'une étant le bien et l'autre comme étant le mal.
C'est plutôt le marteau et l'enclume.
C'est ça. Et il y a des gens, mes personnages se trouvent au milieu entre les deux. Et surtout, ils se trouvent entre les deux, évidemment par le fait de l'intrigue, mais surtout par le fait qu'eux-mêmes sont supposés trouver leur place entre les deux. Et il n'y a pas, ils découvrent au fur et à mesure, sans gâcher, que ce n'est pas quelque chose de tranché, il n'y a pas du blanc et du noir. Et surtout, il y a une question de choix de moralité à faire. Et il n'y a pas de principe. C'était Kierkegaard qui disait... philosophe chrétien s'il en est, mais qui disait quand on fait des trucs par... enfin, je vous avouerai, je vais les citer de travers, mais quand on fait...
Hein,
je ne citerai pas en danois, je suis Grust, Brast, de Berkus, pardon. Non, il disait quand on fait des choses par principe, on finit par faire mal. Je suis navré, la citation n'est pas exacte, mais c'est quelque chose qui pour moi est très fort, surtout de la part d'un philosophe chrétien, c'est que la morale au bout d'un moment, c'est pas quelque chose qui vient au-dessus, c'est finalement un choix. Et c'est un choix qu'on fait tous les jours.
Victor Dixen, l'objectif de la société secrète, c'est le pouvoir. Et si oui, quel type de pouvoir?
Alors moi, je rebondirais plutôt sur ce que vient de dire Lionel. La société secrète, telle que je la mobilise dans Jack Sparks, c'est plutôt un objectif de survie plutôt que de pouvoir. J'ai essayé de réfléchir à toutes ces créatures en fait, qui partageaient le quotidien des humains dans les temps passés, au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, ces nymphes, ces êtres... magiques qu'on croise dans les contes de Perrault, par exemple, les fées, qui faisaient vraiment partie de la vie de tous les jours, on a l'impression, et qui ont été repoussées par la rationalité au fur et à mesure qu'elles se développaient, par les lumières, puis par l'ère moderne, l'ère industrielle. Et si ces créatures subsistaient, où est-ce qu'elles pourraient continuer à exister? Et c'est à partir de ça que j'ai imaginé effectivement cette société secrète d'êtres merveilleux qui vivent sous terre, qui vivent dans les ténèbres, et qui, peut-être, vont essayer de manipuler la société d'Urne, la société des humains, et c'est ce qu'on découvre dans la série Jack Spark. Le personnage principal, Jack, étant confronté à cette population des ténèbres.
Et ça veut dire, là, pour le coup, qu'il y a en plus, j'imagine, la nécessité, le mot secret n'est pas superflu, on va dire, c'est une obligation.
Il est vital, parce que effectivement, ces créatures qui avaient pignon sur rue, pour ainsi dire, dans le passé, ont été refluées par, notamment par la pression de l'Église et de la rationalité des Lumières, comme je l'explique dans le livre. Et elles sont obligées de se cacher pour pouvoir continuer à exister. Et on découvrira au fur et à mesure de la série qu'il existe peut-être un contrepoids tout aussi secret en la personne des exorcistes qui appartiennent au conseil de conjuration de l'Église Vaticane, un peu oublié, qui vont tout faire pour les maintenir dans l'ombre, voire pour les exterminer.
Comme dans le Léviathan, c'est un peu aussi la bataille de la tradition et de la modernité.
C'est à la fois la bataille effectivement de la tradition et de la modernité, mais aussi la bataille de deux traditions. La tradition donc, de ces créatures merveilleuses qu'on pourrait peut-être qualifier de païennes, et une certaine tradition monothéiste qui a voulu les réprimer par tous les moyens possibles.
Ou les récupérer.
Ou les récupérer, effectivement, en plantant une croix sur les dolmens. On connaît les différentes manières de faire cela.
Je continue mon petit tour de table, Philippe Cavalier. Alors, ces sociétés secrètes, l'objectif, c'est le pouvoir, et si oui, quel pouvoir?
D'une manière générale, c'est effectivement, je pense qu'il y a deux grandes catégories de buts dans la société secrète. C'est d'une part, certainement, la conservation de secrets d'ordre initiatique, qui peuvent être effectivement d'ordre simplement technique. Et puis, c'est quand même, au moins fantasmatiquement, la conquête du pouvoir. Et là, on entre dans un domaine très, très complexe. Que tu as évoqué, c'est vrai qu'on entre dans le domaine qui s'appelle la métapolitique. Alors qu'est-ce que c'est que la métapolitique? C'est en fait l'étude des courants souterrains qui tendraient à dynamiser l'histoire. C'est tout le côté sombre de l'histoire, l'histoire non officielle, histoire qui n'est pas forcément apprise dans les manuels, mais qui est souvent bien, bien réelle. Et qui là est une vraie quête de pouvoir. Si l'on considère que l'histoire est le produit de rapports de force, la société secrète est un des nœuds dynamiques particulièrement puissants de ce rapport de force. Oui.
Le marquis, il part, on va dire, essayer au travers de sa quête, qui est une quête au départ personnelle, pour essayer de retrouver son père, ou en tout cas de comprendre ce qu'il a pu devenir. Il part à la recherche de ce qui constitue finalement le trésor dans tous les sens du terme de la société secrète. Alors, sans forcément savoir si elle existe ou pas d'ailleurs au départ.
Absolument, oui. Moi je l'imaginais au XVIIIe siècle, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, l'histoire d'un jeune obro, quand le récit commence, il a 13 ans, il est habitant, résident dans un petit château vraiment à l'écart du monde, on ne sait pas trop où exactement. Dans le centre de la France, mais c'est un adolescent sans aucune expérience. Et puis un jour, son père disparaît. Alors évidemment, il va se lancer à la recherche de ce père. Et il va apparaître très vite que ce papa disparu appartenait à une société secrète. Alors ces sociétés secrètes, moi je ne l'ai pas tiré de l'abbé Barvel, mais d'un autre érudit un petit peu fantasque, qui est quasiment contemporain, il est un petit peu plus récent que Barvel, mais qui s'appelle Claude Sosten de Grasset d'Orsay, un des inspirateurs de Fulcanelli pour les alchimistes, pour les gens qui s'intéressent à l'alchimie. Et Claude Sosten de Grasset d'Orsay faisait la supposition qu'existait au temps de la royauté française une société secrète fragmentée en deux familles, qu'il avait appelée Hérodon et Delphes, et qui était une sorte de contre-pouvoir à la royauté absolue, et donc une sorte de parlement secret du royaume de France. Alors j'ai brodé beaucoup là-dessus, et puis j'ai imaginé que cette société secrète existait réellement, et qu'elle était la gardienne d'un trésor fabuleux, autrefois ramené par les tribus celtes lors de leur pillage de Rome et de Grèce. Et donc on arrive au XVIIIe siècle, où cette société se fragmente, est victime de complots internes et de dissensions internes très fortes. La question est de savoir à qui va échoir le fabuleux trésor qui est gardé par la société secrète.
Nicolas, société secrète et pouvoir, là ça peut être particulier, parce que effectivement, plus alors à la limite, la question du pouvoir se pose dans la civile de la Révolution, là, pour le coup.
Oui, d'abord la société secrète qui repose effectivement sur ce phénomène d'initiation, donc l'acquisition d'une connaissance que les autres n'ont pas, n'est jamais qu'un instrument. Mais après tout, la connaissance est aussi une forme de pouvoir. Et ça, c'est très remarquable. Quand vous écoutez les gens qui aujourd'hui sont persuadés que le monde est dominé par les sociétés secrètes, ces gens sont persuadés d'avoir une connaissance que les autres n'ont pas. Mais non, vous lisez la presse, mais la presse est manipulée de toute façon. La presse, c'est jamais que l'écho de ces êtres mystérieux qui nous gouvernent. Donc effectivement, connaissance, pouvoir, oui, c'est ça les sociétés secrètes.
Et justement, là en plus, il faut dire que la Cellule de la Révolution, on est juste au démarrage de ce qui va devenir la terreur. Hein.
La Cellule de la Révolution, alors on est en pleine terreur, là ça guillotine à tour de bras. Je prends pour base une société qui aurait réellement existé, qui s'était rassemblée autour d'une femme, Catherine Théot, qui était surnommée la Mère de Dieu, et qui réunissait des adeptes dans des salons à Paris, qui les bénissait et qui appelait le nouveau Messie. Et le nouveau Messie, c'était qui pour elle? C'était Robespierre. Et cette affaire a été, par les ennemis de Robespierre, a été ridiculisée, portée publiquement à la Convention. Tout le monde s'est largement moqué donc, de Catherine Théot, sans nommer Robespierre, parce qu'il était encore là à surveiller. Mais ceux qui riaient savaient bien de qui ils riaient. Et quelques semaines plus tard...
Mais je le signale juste comme ça, mais sur cette trilogie autour de cette Sibylle de la Révolution, il y a comme une collection de fous furieux qui est quand même assez, assez particulière.
Oui, alors il y a des gens que j'ai un peu fantasmés. C'est pas forcément appartenant à des sociétés secrètes, mais ayant des connaissances et un pouvoir secret.
Justement, parce que là, il y a les deux extrêmes, mais celui du milieu qui s'appelle le traité des supplices, il n'y a pas une société secrète dedans, c'est un individu. Mais quand vous parlez connaissances et pouvoir, lui, il est vraiment dans cette optique-là, finalement.
Ah oui, c'est la connaissance de la mort. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qu'on ressent quand on meurt? Alors évidemment, quand on est vivant, c'est un petit peu difficile. Surtout qu'à l'époque donc de la Révolution, les expériences de mort clinique n'étaient pas très fréquentes, je pense. Les comas artificiels, les choses comme ça n'existait pas. Donc effectivement, il veut comprendre le mystère de la mort.
Enfin, il ne surveille pas les arrêts cardiaques quand même. Hein
non, il ne peut pas. C'est pour ça qu'il essaie de trouver des morts lentes pour pouvoir les observer.
C'est particulièrement abominable.
Oui, c'est le plus.
Oui, j'ai... Ce qu'on vient aussi d'entendre à travers tout ça, c'est que, et je pense que ça va se vérifier pratiquement chez chacun d'entre vous, c'est que, mine de rien, à travers ces sociétés secrètes et leur rôle, vos personnages centraux vont se retrouver eux-mêmes dans des quêtes initiatiques où ils vont finalement apprendre beaucoup sur eux-mêmes. Lionel, sans trop en dévoiler sur Michael Petersen, on parlait du marteau et de l'enclume tout à l'heure. Alors lui, il est vraiment entre le marteau et l'enclume. Il comprend rien à ce qui lui arrive, le pauvre garçon.
Et effectivement, c'est un homme tout à fait sans histoire, qui d'ailleurs n'aime pas le conflit, quelqu'un de très pacifique, père de famille, très responsable, et qui garde quand même un peu une faille dans sa vie, vu que ses parents sont morts dans un naufrage quand il avait 7 ans sous ses yeux. Et il en garde une fascination extrêmement, qui est à la limite du malsain pour la mère, dont il est conscient d'ailleurs, puisqu'il est biologiste marin, mais c'est un biologiste marin d'une espèce un peu difficile, c'est-à-dire qu'il ne peut pas monter sur un bateau, parce qu'il est pris de crise d'angoisse, elle a la moindre idée de s'approcher de la mer. Et pourtant, elle l'attire, donc il est un peu comme un homme au bord du gouffre. Sauf que cet homme-là est au centre des projets du comité, donc la société secrète de la main gauche, et que, alors qu'il a la possibilité, à travers son travail, de partir en mission en Antarctique pour faire son travail de biologiste marin, et qui sent qu'il lui manque quelque chose de son existence et qui se sent malgré tout attiré et qui décide de partir là-bas, cet homme-là suscite en fait une peur panique chez des gens qui sont largement plus puissants que lui, alors que c'est pas un agent secret, c'est pas un physicien nucléaire. Et c'est là que s'engage effectivement un voyage initiatique pour lui. Et c'était, moi pour parler de ces bouquins-là, je préfère le terme de thriller initiatique puisque c'est vraiment ça qui se trouve, vu que les personnages, que ce soit Michael ou Masha, qui est une mage de la main gauche qui fait partie du complot, mais à qui on n'a pas tout dit, et comme c'est quelqu'un de caractère qui ne s'en laisse pas compter, elle décide de mener l'enquête pour elle-même, il va y avoir véritablement un trajet effectivement initiatique, une recherche de soi à travers ça.
Alors c'est vrai qu'autant le premier tome, ce pour Michael Petersen, là pour le coup, il est
comprend rien. Hein. Puis, le problème, c'est qu'on se demande s'il aurait mieux pas fait de continuer à rien comprendre après la suite. Parce que c'est de pire en pire, en fait, ce qui lui a...
Tout à fait. Bah, j'aimais beaucoup ce qui a été dit sur le fait de la connaissance. Une des idées qui sous-tend la série, et qui est d'ailleurs une chose que je pense, c'est que la connaissance, c'est comme l'énergie atomique. C'est-à-dire qu'on peut faire fonctionner des lumières et on peut chauffer des logements, mais on peut aussi faire sauter des villes. Et tout le trajet en filigrane que vont avoir les personnages, c'est-à-dire leur réaction face à la découverte de ce qui est traité dans la série comme ce qu'ils appellent la vraie nature du monde, c'est-à-dire les secrets initiatiques qui, en l'occurrence, dans cette série-là, fonctionnent véritablement et qui donnent véritablement un pouvoir, mais un pouvoir qui est extrêmement instable, extrêmement dangereux et qui se traite un peu comme la nitroglycérine parce qu'elle vous met, comme tout trajet initiatique, en tout cas ce qui est fait ici, c'est-à-dire à travers la main gauche, elle vous met face à vos propres contradictions et elle vous renvoie un reflet extrêmement destructeur de vous-même. Et en gros, soit vous y passez parce que votre raison cède, soit vous en sortez transformé et changé. Et un des thèmes récurrents et de la série va être quelle est l'attitude que les personnages ont face à l'orée de cette connaissance et finalement à l'orée d'ouvrir la boîte de Pandore. Est-ce qu'ils décident, et c'est d'ailleurs tout le thème entre voix de la main gauche et voix de la main droite, est-ce que l'on décide de rester dans la bienveillance et le côté très doré symboliquement de l'Éden, ou alors est-ce qu'on accepte la chute? Et est-ce qu'à ce moment-là, on décide de vivre en tant qu'être humain et non pas en créature idéalisée? Est-ce qu'on décide finalement de quitter le domicile des parents, symboliquement, pour aller vivre sa vie? Ou alors est-ce qu'on décide de rester à ne pas grandir? Mais il n'y a pas de bien ou de mal, là, encore une fois. C'est juste un choix, et c'est qu'est-ce que les personnages sont capables de supporter et d'affronter pour obtenir les réponses dont ils ont besoin, dont ils pensent avoir besoin.
Victor Dixon, s'il y avait un personnage parmi tous ceux qu'on a là qui doit être forcément en quête initiatique, c'est bien le vôtre, puisque déjà il est adolescent à la base.
Exactement, c'est vrai que s'il y a un âge où le secret et l'envie de comprendre, de connaître le monde qui nous entoure et de se connaître soi-même est absolument crucial, c'est bien l'adolescence. Mmh. Et alors, mes personnages ne sont pas encore dans ces sphères métaphysiques. Eux, ce qu'ils veulent essayer d'arriver à comprendre, c'est effectivement qui ils sont vraiment, à commencer par Jack, mon personnage principal. Qui est donc insomniaque, qui n'a aussi pas à dormir depuis l'enfance. Hein. Ses parents ont tout essayé, ils l'ont envoyé en clinique du sommeil, ils lui ont fait prendre tout un tas de médicaments, rien ne fonctionne, il ne dort pas plus de quelques heures par nuit. Donc finalement, en désespoir de cause, ils l'envoient dans ce camp de Red Rock, qui est perdu dans les montagnes rocheuses au cœur du Colorado, une région très isolée, où les téléphones portables ne captent même pas. Donc un lieu parfait pour développer le secret. Et effectivement, il va se rendre compte que ce camp est une véritable prison, qui est tenu par un personnel pour le moins inquiétant. Et les méthodes qui sont employées sur place, soi-disant pour le soigner et pour soigner les autres pensionnaires qui ont été envoyés à Red Rock, vont avoir chez lui des effets inattendus, réveillant des instincts et des mutations cachées qui sont peut-être l'origine de son problème. Et c'est là pour lui que commence la quête initiatique, qui va le conduire à comprendre qui sont vraiment les personnes qui gèrent le camp de Red Rock, mais également quelle est sa nature profonde. Donc on rejoint la quête de soi, rejoint la quête de la compréhension de son environnement dans le cadre de ce livre.
On est assez, nous lecteurs, extérieurs par rapport à l'œuvre de Lionel, de Philippe ou de Nicolas. Vous, j'imagine que vos lecteurs, du coup, ils sont beaucoup plus concernés, entre guillemets, ou en tout cas, ils ont peut-être beaucoup plus de facilité à s'identifier aux questionnements que se pose le personnage.
C'est un âge, effectivement, je pense, l'adolescence, où on a envie d'avoir les clés de compréhension du monde. Quand on était enfant, les choses paraissaient merveilleuses, nous échappaient un peu. On est confronté assez brutalement à la réalité en grandissant. On se rend compte peut-être que la magie n'existe pas, que le monde va être plus dur que ce à quoi on s'attendait. On essaye de se raccrocher malgré tout à quelque chose de magique. C'est pour ça sans doute que les super-héros qu'on voit dans les comics, dans les films, plaisent tant aux adolescents. Parce que finalement, c'est un personnage réel, un personnage bien de nos jours, qui se découvre des pouvoirs qui lui donnent effectivement une perspective complètement différente sur le monde. Je pense que ce besoin de secret et ce besoin de merveilleux s'expriment de cette manière à l'adolescence.
Justement, vos lecteurs, quand vous les rencontrez, ils vous parlent de ce côté initiatique même à travers...
Oui, il m'en parle effectivement, et principalement à travers le personnage de Jack. La première, le premier tome de cette série, qui en comporte 4, s'appelle L'été mutant, car ce personnage, Jack, sous l'influence des traitements subis à Red Rock, va effectivement connaître un certain nombre de mutations. Et l'adolescence, c'est l'âge de toutes les mutations, qu'elles soient corporelles, qu'elles soient psychologiques. Donc forcément, il se retrouve assez facilement dans le personnage et dans les différentes épreuves qu'il traverse.
Philippe Cavalier, on l'a un tout petit peu effleuré, la question de la quête initiatique dans votre précédente intervention, puisque le marquis part à la recherche de son père. Mais finalement, c'est ce qu'il découvre. D'abord, il va tomber nu, si on ne faut pas trop en dire, mais surtout, il va se découvrir lui-même quand même.
Oh, j'aurais très envie de dire que mon personnage n'est pas suffisamment sophistiqué. Pour se lancer dans une quête initiatique.
Il découvre des talents et des aptitudes.
Alors évidemment, c'est plus un roman d'apprentissage que d'initiation en tant que tel.
Un roman picaresque, presque.
C'est un roman picaresque. Alors c'est vrai que les sociétés secrètes sont là, mais c'est plus du décorum que la thématique principale. Particulièrement pour le personnage qui va être initié comme quasiment tous les nobles à la fin du 18e à la franc-maçonnerie lui-même, mais il ne va pas en tirer un enseignement spirituel particulier, ça va simplement lui permettre d'acquérir quelques passe-droits auprès de camarades maçons, et puis il va trouver ça très bien, un peu rigolo, folklorique mais sans plus, et puis il passera à autre chose. Donc moi j'ai voulu un personnage qui soit un peu brut de décoffrage, un peu pas deux dimensions, certainement pas, parce qu'il a une évolution psychologique très importante tout au long des trois volumes, mais qui prenne la vie un peu comme elle va, sans vraiment se lancer dans des réflexions d'ordre métaphysique ou initiatique.
C'est pas un genre d'échec, hein, il joue pas trois coups en avance.
Non, il joue pas trois coups en avance, il est très opportuniste, très dans l'instant. Et c'est vrai que le contraste peut être là par rapport à d'autres personnages qui nous sont, alors du coup, rentrent plus dans la logique de la société secrète en quête de pouvoir, qui vraiment cherchent à manipuler et les opinions, déjà, par la presse par exemple, par les libelles et par les pamphlets. On voit des méchants anglais qui tentent de discréditer la royauté française pour écarter le danger que la France...
Pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui jubilé d'Aïn.
Non, pardon. lui va croiser des personnages qui sont vraiment dans la logique de la société secrète telle qu'on peut l'imaginer, donc des complotistes purs et durs, mais lui n'a pas l'évolution, la structure, la volonté machiavélienne suffisante pour s'y lancer lui-même.
Il va aussi se former, alors c'est peut-être pas des sociétés secrètes à proprement parler, mais quand on parle d'apprentissage pour le marquis d'Angers, ça se passe aussi dans des cercles de jeu, dans des endroits peu fréquentables, où il y a une société qui se trouve un peu en marge de...
Voilà, alors la société secrète sert aussi parfois à dissimuler ou à pimenter des énergies un peu plus intimes. Et au XVIIIe siècle, existaient évidemment des groupements, alors pas vraiment des groupements secrets, on pourrait dire des groupements plutôt discrets, qui servaient d'exutoire aux libertins de l'époque. Et là, je pense notamment à un ordre anglais, justement, qui s'appelait l'Ordre de Saint-Francis, et qui réunissait des gens très, très, très libertins et très portés sur la chose. Alors, je crois on pourrait retrouver ça de nos jours, évidemment. Au XVIIIe, il y avait un petit côté des forums plus avancé et plus chatoyant. Voilà, donc le pauvre marquis traverse momentanément ces bas-fonds. Il n'en tire une glorieuse personnelle, une satisfaction physique, mais certainement pas intellectuelle.
D'un marquis porté sur la chose à un autre marquis porté sur la chose, la transition est toute trouvée. Là aussi, oui, il y a la Sibylle fait sa quête initiatique, mais finalement, on a l'impression que Sade aussi, d'une certaine manière, au fur et à mesure de l'avancée du roman, commence à comprendre certaines choses.
Alors, l'initiation est extrêmement liée à la mort. Un thriller est souvent un roman initiatique parce que le personnage principal est confronté à une scène de mort, une scène de brutalité. On n'est pas dans les vies quotidiennes confronté à ce genre de choses-là, normalement. Et quand ça arrive, on ne sait pas comment on va réagir. C'est une forme d'initiation. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est beaucoup d'initiations traditionnelles dans les sociétés secrètes. C'est une mort rituelle. On mime la représentation d'une mort rituelle, voire d'un assassinat rituel. Ça, par exemple, sur la mort d'Hiram dans les trucs maçonniques, enfin, on met en scène un assassinat ou une mort. Donc effectivement, la Sibylle, elle, va être confrontée plusieurs fois à la mort, comme tout personnage de thriller, et donc va avoir une vision après différente, même si elle a la vision théorique de la chose parce qu'elle voit l'avenir, mais voir l'avenir et le vivre, c'est pas tout à fait la même chose. Quant au marquis de Sade, lui, bah, il va voir la concrétisation matérielle de ce qu'il a imaginé, de ce qu'il a fantasmé. Puis pour revenir sur la Sibylle, c'était une cartomancienne qui s'appelait Marie-Adélaïde Lenormand, qui a réellement existé, qui a créé un tarot. La particularité de ma trilogie, c'est de lui avoir conféré un véritable don de voyance. Par exemple, elle voit sa mort, alors elle s'en soucie pas trop parce qu'elle se voit très âgée.
Oui, c'est une question de contexte aussi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas toujours forcément tous les éléments
indispensables. Ah non, tout à fait. Lorsque, par exemple, les petites filles, elle voit en vision sa première expérience sexuelle, elle ne comprend pas de quoi il s'agit. Après, petit à petit, elle va passer par plusieurs étapes où elle va avoir peur, elle va être impatiente, elle va essayer de la fuir, elle va au contraire essayer de la provoquer, mais ça n'arrivera
qu'au moment... Il y a le sujet dans la gueule du loup
Non, ça ne nous est arrivé qu'au moment où ça nous est arrivé, et ça finit par arriver.
Le marquis, lui... Il y a un portrait très intéressant finalement du marquis de Sade parce qu'on est loin, j'allais dire de l'imagerie d'Épinal autour de lui, désolé, c'est pas fait exprès, mais c'est quand même ça l'idée, c'est-à-dire qu'on est loin de ce personnage flamboyant, vraiment hors norme, parfois même peut-être adulé par certains, redouté par d'autres, là finalement il est assez insignifiant.
C'est vrai que Sade, on le voit aujourd'hui par le filtre que nous ont légué les surréalistes, qui en ont fait une sorte de surhomme quasiment nietzschéen, celui qui se dresse et qui s'oppose à la puissance moralisatrice de l'Église, de la société, etc., un anarchiste avant l'heure, etc. Un petit peu de sérieux, quand on lit la correspondance de Sade, quand on lit des biographies extrêmement détaillées, et donc j'insiste sur ses courriers également, c'est un sale bonhomme qui avait aucune empathie avec le reste de l'humanité. C'est un loser, il court après l'argent toute sa vie, il court après les femmes bien entendu, il court après sa propre jouissance au final oui c'est un loser, hein. Il va finir dans un asile mais quelque part il l'a bien cherché si d'aventure on avait quelqu'un aujourd'hui qui reproduisait les faits qu'il a commis par exemple sous l'ancien régime, là il était assez actif, il irait en prison pour lui aussi, hein, il n'y a pas de souci.
Il a une réaction à la fin du roman, finalement, face à ce que va susciter son œuvre, puisqu'on l'aurait dit, la société secrète l'a érigé, on va dire presque en divinité, mais c'est un peu plus compliqué que ça.
C'est une anti-divinité, oui, voilà. c'est le Satan de cette société secrète.
Et finalement, sa réaction, elle est curieuse face à ce qui se passe au dénouement de l'histoire.
Ah, il apprécie.
Il biche, ouais.
Il biche. Il voit ses fantasmes réalisés sur une scène. Oui, non, mais c'est en grandeur nature et voir multiplié par 10 par rapport à ce qu'il avait imaginé. Et oui, il est comme un gamin devant la vitrine d'un pâtissier.
Alors que je vous confirme que c'est abominable ce qui se passe quand même à la fin.
Ah oui, c'est un thriller. Hein.
Oui, oui, certes. Mais il y a des thrillers où les méchants seront arrêtés peut-être avant de commettre l'irréparable.
Ouais, mais c'est pas marrant.
Mais voilà, effectivement, il y a toutes ces choses. Alors évidemment, vous l'aurez compris, il y a une mine
de possibilités de, d'existence, de croyances. Je vais quand même faire un dernier tour de table, parce que j'ai commencé en parlant de paranoïa ou de vraisemblance, ou de, enfin, disons-le, de croyances. T'es parano ou t'y crois vraiment?
Sur l'engouement pour les sociétés secrètes, je pense qu'il y a... alors déjà, on peut être paranoïaque et poursuivi.
Ça, oui, certes.
Ça, voilà, ça veut...
Non, mais ça, c'est... Oui, c'est embêtant, parce que c'est, pour voilà, le savoir...
mais si, je vous assure, ils me suivent. Non, juste pour rebondir sur la métapolitique, etc., je pense qu'il y a un truc qui est... Mais ça marche avec les ovnis et tout. Première chose, c'est que l'esprit est une machine à chercher des motifs partout. Donc, à partir du moment où il y a une coïncidence, on a quand même une tendance à chercher un motif, à chercher des trucs. Et il y a beaucoup d'ailleurs d'ésotérisme qui se base là-dessus, qu'on y croit ou pas, on cherche des causes à plein de choses et on se dit... Donc, quand il y a une coïncidence un peu louche, on se dit « Ah, c'est peut-être une société secrète et c'est pas du tout peut-être le fruit du hasard. » On a tendance à chercher un sens. Et le deuxième truc, c'est que... on dit en logique que l'absence de preuve n'est pas la preuve d'une absence. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui parlent des sociétés secrètes qui disent « Ouais, mais on n'a pas de preuve. » Ouais, mais c'est de la preuve qui sont quand même super balèzes. Bon, moi, je joue avec ça pour le truc, mais
effectivement... C'est une logique irréfutable.
Voilà. Donc c'est bon, alors c'est rigolo quand on joue avec en fiction, dans le monde réel. Bon, moi je suis auteur de fiction, je suis pas là pour rien. Donc je suis peut-être paranoïaque, je suis peut-être poursuivi quand même.
Victor, le fait que votre société secrète, elle émane du merveilleux.
Oui.
Est-ce que ça rend, on va dire, est-ce que ça atténue l'inquiétude qu'elle peut susciter?
Pas forcément, parce que quand on est immergé dans le roman, quand on partage vraiment le destin des personnages, je pense que, en vertu du pacte narratif qui est noué entre le lecteur et l'écrivain, on oublie en fait que ces créatures n'existent peut-être pas dans la vie réelle, et donc on tremble en même temps que les personnages. Et moi, j'aurais envie de conclure sur ce qu'on a dit au début de cette table ronde, sur le fantasme, le besoin peut-être de secret, qui, à mon avis, est inscrit en chacun de nous. Donc, est-ce que j'y crois? Est-ce qu'on y croit? C'est une question, mais est-ce qu'on veut y croire aussi? Moi, je pense que chacun de nous, on veut à divers degrés croire à cette part bien connue de merveilleux, cette part qui reste à explorer. Et c'est à travers les livres, peut-être, qu'on peut entretenir et assouvir ce besoin vital, d'après moi.
Philippe Cavalini, c'est pas à vous que je vais poser... Enfin, c'est à vous que je vais poser la question, mais c'est pas... Elle vous concerne pas, vous, la question? Il est parano ou il y croit vraiment, le marquis d'Angers?
Bon, le marquis d'Angers, encore une fois, il tâte sérieusement de la réalité de la chose, du moins dans son monde. Donc oui, il y croit.
Mais est-ce qu'il ne nous a pas tout inventé dans ce qu'il nous raconte?
Non, il n'a pas inventé. Il ne dit que la vérité. Il a le bon rôle. Mais en revanche, oui, pour conclure, de manière peut-être un peu plus générale, je pense que la société secrète, alors on peut y croire pas, bien entendu, il n'en reste pas moins que tout pouvoir forcément génère un contre-pouvoir. Et que la société secrète, ou du moins il serait logique qu'il existe vraiment des sociétés secrètes, puisque le pouvoir finit par générer des contestations, bien entendu, et que la société secrète pourrait s'inscrire dans des stratégies, et s'inscrire dans des stratégies normales de conquête du pouvoir. Après tout, les bolcheviques, avant de renverser le système tsariste, étaient des sociétés apparemment secrètes, ou du moins agissaient de manière secrète dans la société russe. Donc je crois qu'il est tout à fait pertinent, après tout, d'accorder une réalité historique et quasi nécessaire à la société secrète. Ce n'est pas qu'un fantasme d'écrivain, même si c'est un terreau d'imaginaire absolument merveilleux pour nous.
Nicolas, d'abord, vous avez déjà en partie répondu depuis le début de cette table ronde, mais vu le traitement que vous leur faites subir aux sociétés secrètes, la forme totalement grotesque que vous leur donnez, voilà, c'est pas un truc que vous réveillez pas le matin en regardant sous votre lit s'il y a une société secrète.
Non, de plonger un peu là-dedans, ça m'a appris une chose, c'est que la paranoïa nous guette tous. On peut effectivement, comme disait Lionel, et je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit, c'est vrai qu'on essaie de chercher des explications à tout, mais je crois sincèrement qu'il y a une limite à ne pas franchir. cette limite, c'est laquelle? C'est vous discutez avec un type qui croit dans les sociétés secrètes, il vous expose son truc, vous lui dites, apportez-moi la preuve. Et il vous répond, apportez la preuve du contraire. Et non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Et alors, admettons...
C'est ce qui se passe dans un tribunal normal, sans qu'il y ait forcément une société secrète.
Non, parce que la preuve, elle est matérielle et objective. Alors, admettons que vous lui apportiez la preuve qu'elle n'existe pas, cette société secrète. C'est que vous faites partie du système, voilà ce qui va vous répondre.
C'est la preuve même de l'existence,
ouais, c'est de la preuve même secrète. De l'existence de la société secrète. C'est ça, j'ai pris ça pour base pour un roman qui n'est pas encore paru, qui va paraître au mois de septembre. Le paradoxe que j'appelle le paradoxe de Baruel. Effectivement, apporter la preuve du contraire, et puis si tu l'apportes, ça veut dire que tu fais partie du système.
Nous faisons tous partie de la grande société des imaginales, qui n'est pas du tout une société secrète et qui le revendique au contraire. On va vous remercier d'avoir assisté à cette table ronde autour des sociétés secrètes. J'imagine que ça a pu susciter pas mal de questions chez vous. Évidemment, je vous invite à les poursuivre encore ce soir et demain, même si ce soir là, il va y avoir quelques festivités prévues, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, demain, d'aller poursuivre les discussions avec les auteurs si vous avez des questions à leur poser. Et puis, évidemment, d'aller découvrir plus amplement le travail de ces quatre auteurs qui évidemment va aussi au-delà de ce simple thème des sociétés secrètes qu'on a pris comme petit bout de la lorgnette, mais qui évidemment est englobé à l'intérieur d'histoires bien plus complexes et bien plus robustes que ça. Merci beaucoup, bonne soirée.